Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Les grands travaux, malgré leur nom, pas vraiment une histoire de pelleteuse ou de BTP, plutôt un bouleversement pour le regard de qui se promène dans Paris. Et autant de partis pris qui à chaque fois racontent le goût et les choix du locataire de l'Élysée. Dans les années 90, ces grands travaux présidentiels étaient particulièrement nombreux à Paris. Des bâtiments dédiés à la culture, le plus souvent, mais pas toujours. À la fin des années 80, l'architecte Paul Chemetov, vous savez, celui qu'on dit parfois brutaliste, se voit confier la construction de Bercy, un paquebot flambant neuf dans un quartier encore dans son jus. Un tout nouveau ministère des Finances à l'horizon, en 90, France Culture consacrait une de ses nuits magnétiques à ce bâtiment coup de force, comme on disait alors, qui consistait à mettre du sens dans la quantité. C'est ce que disait Chemetov en personne. Le départ du Louvre, où logeait jusque-là le ministère, pour la rive droite de la Seine, qui ne fait pas encore face aux quatre livres gigantesques de la grande bibliothèque, est aussi concomitant d'une mue du pouvoir. Pénétré durant une heure et demie dans ses arcanes, c'était dans les nuits magnétiques le 7 juin 1990.
Nuit magnétique, bonsoir. Claude Hudelot, Bruno Sourcy. Le ministère des Finances, de la monumentalité. Les grands travaux sont en train de changer radicalement la physionomie de Paris. Il faudra bientôt comparer le paysage des années 70 à celui de la capitale après la construction de la TGB, la très grande bibliothèque. À l'ouest, la Grande Arche, nouvelle porte de Paris, au cœur, la pyramide, et puis l'Institut du monde arabe. Enfin, à l'est, l'autre porte tout aussi monumentale que la Grande Arche, le nouveau ministère des Finances construit à Bercy par Paul Chemetov et Borja Huidobro. Contrairement aux autres grands travaux, le ministère des Finances n'a pas de vocation culturelle. Il est la résultante d'une décision, redonner au musée du Louvre les espaces occupés par les fonctionnaires dits de la rue de Rivoli. Cela ne s'est pas fait sans mal. Chemetov et Huidobro ont remporté un concours très disputé en proposant une option qui, selon certains de leurs malheureux confrères, transgressait le programme. Aujourd'hui encore, ces corps de bâtiments, qui sont les plus vastes de Paris, sont l'objet de critiques parfois violentes. Il est vrai que la longue façade qui double majestueusement le pont de Bercy et vient tremper ses pieds dans la Seine peut choquer le regard. Mais à bien y regarder, ce qui apparaît comme une grande barre ne manque pas, pour reprendre un propos de Frédéric Edelman, journaliste au Monde, d'intelligence. Le quartier tout autour est beaucoup plus choquant et son architecture consternante. Au demeurant, l'immeuble n'est pas si rigide qu'il apparaît d'abord. Un déhanchement vient le rythmer et sa façade, côté Seine, apparaît comme une gigantesque sculpture. Il est douteux que ceux qui critiquent le ministère aient fait la visite exhaustive des bâtiments. C'est en tout cas ce que nous avons fait en compagnie des architectes. Nous avons aussi rencontré Frédéric Edelman, auteur avec Emmanuel Deroux d'un article coup de poing, qualifiant le ministère du plus mal aimé des grands travaux. André Poutman, architecte d'intérieur, qui a aménagé les bureaux et les espaces réservés aux ministres, nous donne aussi son point de vue. Début de la visite avec les architectes. Borja Huidobro, Paul Chemetov, oui. On est là à l'entrée. Et alors, je remarque une particularité, c'est qu'on passe par une toute petite porte et on passe dans un bâtiment qui est très marqué historiquement.
Oui, qui est l'ancien corps de garde de la caserne qui était là. À l'origine, il y avait une caserne de mousquetaires noirs il y a très longtemps, mais tout ça a été transformé. Et par la suite, c'était deux octrois. Ça, c'est un des deux octrois qui était le contrôle de l'entrée sud-est de Paris. Donc nous avons vidé ce bâtiment pour l'essentiel, pour faire un très large volume d'entrée, mais il nous a semblé que, bon, jeu sur les échelles, référence au Louvre, on rentre par la porte étroite pour découvrir une ville.
Alors, en ce qui concerne la petite porte, moi, je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas qu'il y ait une seule petite porte. Vous voyez bien qu'il y a des entrées latérales qui ne sont pas encore en service, mais ils viendront, donc c'est à peu près un peu plus grand que ce qu'on imagine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a utilisé ces bâtiments qui existaient sur place pour faire l'entrée, pour ramener un peu du Louvre ici.
Oui, en fait, ça fonctionne un peu comme un trompe-l'œil.
Ah oui.
Alors, on avance donc avec vous. Et puis, on découvre cette perspective, Paul Chemetov.
Oui, qui est l'axe historique, c'est-à-dire puisqu'il lie les deux bâtiments conservés, que nous avons conservés de propos délibérés parce que nous n'y étions pas obligés, et qui lie cet ensemble de cours et qui va de la cour d'entrée des fonctionnaires, où nous avons sur notre droite tous les bâtiments des services sociaux, des syndicats, du contrôle médical, il y a une petite salle de théâtre pour le personnel, il y a un gymnase en dessous, il y a des tas de choses, jusqu'à la cour d'honneur qui est à l'opposé, sur lequel nous trouvons, de la même façon que les services sociaux, le bâtiment des conférences internationales. Et c'est ces deux bâtiments, l'un sur la rue de Bercy, l'autre sur le quai de la Râpée, sont placés dans cette situation d'angle pour avoir des irrigations et des entrées, une exploitation extérieure possible, en dehors du périmètre de sécurité ou de fonctionnalité du ministère, comme on veut.
On connaît les travaux de Paul Chemetov, qui a beaucoup construit de HLM dans ce qu'on a appelé les banlieues rouges, et a réalisé la partie la plus réussie des Halles de Paris, où il a mis en application ce rationalisme constructif qui lui est cher. Architecture rigoureuse, forte, sans concession à la mode, que l'on a qualifié parfois d'expressionniste, voire de brutaliste. Frédéric Edelman donne franchement son point de vue éclairé et resitue tout d'abord le contexte historique et géographique du projet.
Le dégagement du Louvre était une nécessité. Et ça, je dois dire que c'est une des grandes choses apportées au crédit de ce morceau de la Ve République, c'est d'avoir enfin rendu l'ensemble du Louvre à sa vocation qui est objectivement d'être un musée. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est qu'il y avait le problème du déséquilibre de l'Est. Il fallait créer quelque chose de lourd à l'Est qui revitalise, qui redonne, si je puis dire, un prix financier à ces quartiers délaissés de Paris. On ne pouvait pas imaginer mieux qu'un ministère des Finances. On ne peut pas rêver mieux que de loger plusieurs ministres tatillons et souvent prétentieux dans cette partie de Paris, car ce qu'ils voient par leur fenêtre ne leur plaît pas, donc ils vont avoir tendance à vouloir le faire évoluer. C'est d'ailleurs le cas. Ils sont beaucoup moins chiches de leurs deniers depuis qu'ils se sont installés là qu'ils ne l'auraient été précédemment. Alors, ce bâtiment, en fait, avait au moins une double vocation. Dégager le Louvre, redonner une valeur à l'Est, mais davantage encore, je dirais, dire attention, Paris ne s'arrête pas dans cette espèce de grande zone comme ça, qui se perd sans étage, sans hauteur, sans relief, sans éléments marquants. Il fallait un monument et ce bâtiment en est un. Et je pense que ce bâtiment en sera au moins un autant que le sera la future bibliothèque de France sur laquelle on s'est peut-être un tout petit peu prématurément extasié. Encore que je fasse tout à fait confiance à Perrault pour réussir au final quelque chose d'extrêmement intéressant, mais je pense que le résultat final sera très différent du projet qui a gagné le concours.
Alors, là, on est donc on est rentré dans le bâtiment. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est à l'est de Paris.
Oui.
Et on dit aussi aujourd'hui, dans le milieu architectural et ailleurs, que d'une certaine manière, ce lieu que vous avez créé, ce lieu gigantesque, je crois que c'est le plus grand immeuble de Paris aujourd'hui.
Jusqu'à la construction de la très grande bibliothèque, c'est le plus grand.
C'est ça. Alors, ce lieu, donc, devient d'une certaine manière une porte à l'est de Paris et rééquilibre complètement la capitale. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement un bâtiment comme ça qu'on vient mettre à cheval sur la Seine.
Non, non, c'était dès le concours, et je crois que c'est pour ça que nous avons gagné, nous avons bien eu en tête l'un et l'autre l'enjeu urbain de cette position. Double enjeu urbain, il fallait faire oublier le Louvre, et c'était pas rien. Il fallait quitter le siège du pouvoir d'État de tout temps en France. Et de la fondation du pouvoir d'État en France. Il fallait, en plus, sur un terrain ingrat et dans un quartier que l'on considérait à l'Est, donc pas à Paris, forcément.
Un méchant quartier, dit-on.
Un méchant quartier. Il fallait faire un élément de centralité. Et cette porte, elle fonctionne exactement comme l'arche dans les deux sens. C'est-à-dire l'arche, on s'en rend compte aujourd'hui dans la pratique, renvoie aussi bien vers l'extérieur que vers l'intérieur de Paris. Et ce passage, cet enjambement qui voulait nous faire retrouver une valeur naturelle, c'est-à-dire la Seine. On avait plutôt un terrain dont la plus grande dimension était le long des voies ferrées. C'est nous qui, par un coup de force, en quelque sorte, avons décidé de nous ancrer dans la Seine pour dire ce pouvoir se représentera dans la suite des monuments parisiens et de ce fait, en doublure du métro aérien qui est quand même une des signatures urbaines de Paris. Il n'y a pas tellement de villes qui ont des métros aériens sur des ponts doubles qui franchissent un grand fleuve. Je n'en connais pas. Donc, voilà ce qu'on a fait.
Alors, je ne veux pas y revenir trop longtemps, mais vous avez parlé de coup de force. Effectivement, c'est un coup de force.
Ah oui.
Certains des architectes n'ont pas apprécié. Or, quand on a lu, et semble-t-il, vous l'aviez bien lu,
oui.
Le concours, le propos du concours, c'était complètement jouable comme vous l'avez donné.
Oui. Mais il n'empêche que c'est un coup de force intellectuel. C'est le même coup de force intellectuel qui faisait tenter par Jean Nouvel une tour de 450 mètres. C'est le même coup de force intellectuel qui faisait proposer par Perrault ses quatre tours pour borner ce nouveau champ, ce palais royal de la culture et de la lecture. J'emploie coup de force dans ce sens. Ce qu'il y a de frappant, c'est que ce coup de force nous était d'autant plus suggéré, c'est que l'histoire, et notamment la création de l'autoroute, avait tordu une trace parisienne évidente. Il y avait quand même des barrières de Ledoux. C'est l'enceinte des fermiers généraux. Et nous, ça nous plaisait infiniment que le ministère des Finances s'installe sur l'enceinte des fermiers généraux et nous entendions, dans la mémoire de la ville, le signifier.
Alors, je repense à ce concours. On vous a posé la question une autre fois et vous avez dit on vous a demandé pourquoi avez-vous gagné ce concours et vous avez répondu tout simplement parce que c'est le plus beau.
Oui, certainement. C'est le plus déterminé. C'est le seul où, très bizarrement, le président du jury, Guy Vidal, tout à fait sur la fin des travaux, nous disait « Je vois ce bâtiment comme je l'avais imaginé au moment du concours ». C'est-à-dire qu'ils ont reconnu « Ce n'était pas rien ». De venir ici. Vous connaissez les oppositions de la haute administration, ne serait-ce que pour des raisons d'environnement. Donc il fallait leur donner infiniment plus beau, plus confortable, plus grand, plus puissant, powerful, que le Louvre. Et ils l'ont reconnu, et c'est tout.
Non, et en plus, je dirais qu'on a donné une image au ministère. Vous savez, les logos de ce ministère qui est né du bâtiment, vous l'avez même dans vos feuilles d'impôt. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la mémoire des gens, cette forme est rentrée comme le ministère des Finances. C'est l'identité qu'on a donnée à l'institution. Et je trouve ça fondamental.
Je coupe Borja, mais je me souviens d'une chose. Au départ, le programme, il ne faut pas se tromper, n'était qu'une cité administrative. Okay. Les grands projets du septennat étaient tous culturels au départ. Et c'est nous, encore une fois par ce coup de force, c'est-à-dire cette décision de mettre du sens dans la quantité, qui avons transformé une cité administrative en grand projet et en événement urbain dans Paris.
Frédéric Edelman.
C'est un bâtiment qui échappe assez largement au courant actuel de la mode, qui est assez fidèle à ce qu'est chez Metoff lui-même, c'est-à-dire à la fois extrêmement intelligent, brillantissime, je dirais même, chez Metoff et Huidobro, pardon, puisqu'ils sont deux dans cette galère. Une architecture à la fois extrêmement intelligente, mais extrêmement lisse aussi, qui échappe aux critères habituels, qui échappe aux critères radicaux, en tout cas. Alors, comme on vit une période radicale dans l'architecture, on vit une époque de cage de verre, on vit une époque de bimbloterie métallique, on vit une époque d'expressionnisme du béton, là, on a en fait une espèce de barre extrêmement rigide, ou plusieurs barres extrêmement rigides, qui s'agencent de manière extrêmement brillante, et donc, c'est très difficile d'attaquer ce bâtiment, sinon de manière simpliste, en disant qu'il est brutal, ou en disant qu'il est énorme.
On dit brutaliste même.
Ou brutaliste. Alors si on utilise tous ces termes-là, effectivement, on peut évacuer le bâtiment, mais je crois qu'il y a d'autres manières de l'approcher. Et c'est la première manière, c'est d'apprécier la complexité. C'est un bâtiment colossal, c'est une ville, et on ne juge pas une ville, si je puis dire, en un seul mot. Donc il faut voir comment les choses s'agencent, il faut voir comment les gens y vivent, puisque maintenant ils y vivent. C'est un petit peu comme le bâtiment du monde, au fond. Est-ce qu'il y a une adéquation entre les occupants financiers, grands ou petits, et cette espèce de monumental coffre-fort? Je pense que oui. C'est extrêmement sain d'avoir enfermé les agents du fisc dans cette espèce d'immense prison. Je dis prison au sens imagé du terme, ça n'est pas du tout une prison. Hein. On y circule très très... Une fois qu'on a passé le portillon d'entrée, on circule très très librement dans cette histoire-là. On a le choix entre plusieurs restaurants. Il y a même des guichets pour aller retirer de l'argent, ce qui est quand même le moins qu'on puisse faire dans un bâtiment comme ça. Non, plaisanterie mise à part, sur le plan formel, sur le plan fonctionnel, je crois objectivement que ça marche très très bien. Il faut marcher. Comme c'est une grande ville, c'est une grande ville qui se parcourt à pied. Donc si on veut en faire le tour, il faut marcher. Seulement, les gens qui viennent y travailler, généralement, n'ont pas à y faire le tour. Ils vont d'un étage à l'autre, ils restent dans un bâtiment donné. Donc la visite de la ville, telle qu'on peut la concevoir comme critique ou comme touriste, ne s'apparente pas au mécanisme de vie des gens qui travaillent là-bas.
Vous expliquez que Le Monde est titré récemment à propos de grands projets, qu'il était mal aimé.
Pour deux raisons. D'une part, les Français ont un rapport très curieux avec l'argent et les impôts. Nous ne sommes pas de tradition ni weberienne ni anglo-saxonne. Bon. D'autre part, nos confrères architectes se sont vus caresser à contre-poil. C'est-à-dire que nous affirmions des valeurs de permanence, de durée. Nous osions représenter l'État en un moment où tout le monde veut, dans les vitres fumées, dans l'éclat des inox et tout, parler de la dématérialisation et surtout ne pas vouloir signifier, laisser au reflet le soin de s'auto-signifier, de s'auto-proclamer. On ne peut pas faire un ministère de reflets et de miroirs. Ce n'est pas Alice au Pays des Merveilles, ici. C'est autre chose. Enfin, c'est l'institution. On peut être pour l'abolition de l'État, et je recommence à tous mes confrères la lecture de Kropotkin, de Bakounine, d'Élisée Reclus, excellent géographe français, de Flammarion, à la rigueur. Mais ce n'est pas le propos. Il fallait dire les cadres de l'État qui sont en France consubstantiels de notre vie démocratique même.
Moi je pense qu'il ne faut pas oublier que ce ministère des Finances représenté au Louvre date d'il y a longtemps, très longtemps, depuis le duc d'Elmorny, et qu'aujourd'hui quand on fait un bâtiment comme celui-ci, il ne faut pas prendre des expressions d'une architecture éphémère pour implanter un pouvoir qui est pérenne. Pratiquement. Alors nous, on n'a pas choisi cette voie-là, c'est tout. Alors, pas éthique que ça gêne.
Oui, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un lieu fort.
Ah oui, Mais c'est aussi un lieu du travail bureaucratique. C'est-à-dire que quand vous avancez là, et que le mélange de ces pierres blondes et de ces quadrillages noirs disent à la fois la mémoire, la permanence, et aussi le travail contemporain, les claviers des ordinateurs. Là, vous êtes dans un hall, autre ambiance, autre bruit, autre climat.
Avec des bambous qui poussent là. Il y a le noir, effectivement, de ces carrés. Alors, il faut préciser quand même que tout est rythmé par un carré.
De
90 sur 90.
C'est le module complet. Oui. C'est-à-dire qu'on utilisait ces modules parce qu'à l'étude du programme, c'est celui qui répondait le mieux à la différenciation d'éléments des programmes du bureau. Donc on l'imposait à une époque où les bureaux se faisaient à 125-135. On a eu beaucoup de mal, mais on a obtenu ça. Aujourd'hui, c'est devenu absolument courant dans les bureaux aux États-Unis. Bon, complètement courant. Et c'est celui-là qui règle tous les dimensions de ces ministères. C'est-à-dire largeur, hauteur, longueur, etc.
Oui, ce n'est pas tout à coup un retrait des architectes dans la théosophie ou... Non, le pas de croissance des programmes de bureaux, il ne faut pas oublier que toutes les cloisons de bureaux sont démontables et qu'elles n'arrêtent pas de se démonter et de se remonter. Et le pas de croissance de tous ces programmes, des 100 000 mètres carrés de bureaux hors circulation qu'on a ici, était réglé par le pas de 90. Et donc, il s'est imposé d'abord comme une nécessité fonctionnelle et ensuite comme un des rares moyens formels que nous ayons de contrôler ce gigantesque... Parce que ce gigantesque projet, le danger là-dedans, si vous ne donnez pas quelques règles simples, comme des portées musicales, ben vous, toutes les mains, vous avez toutes les textures, toutes les mains, toutes les fantaisies, tout à coup, Huidobro se réveille un matin, dit « Tiens, je vais faire ce coin comme ça, moi je viens l'après-midi, ah je tiens, là par là, je vais mettre tel matériau. » Il est bien certain qu'il fallait se donner quelques notes et quelques traits de portée. Et voilà. Et c'est ce qu'on a fait.
Et puis il y a cette pierre, oui. Cette pierre qui recouvre donc une bonne partie des bâtiments. On va ressortir peut-être pour voir. Et là, on pourrait dire à propos de la pierre, Paul Chemetov, que c'est une nouveauté chez vous. Parce que d'habitude, si je puis dire, on dit que vous laissiez apparent la structure.
Oui. Mais tout simplement parce que nous construisions des HLM à quelques milliers de francs du mètre carré, et si possible encore moins cher que ça. Et le problème était très différent ici, puisque dans les éléments du programme, on nous demandait un bâtiment de 25 ans sans entretien. 25 ans sans entretien, ça veut dire pas d'enduit, pas de peinture, et une isolation par l'extérieur. Donc à partir du moment où vous faites un noyau structurel en béton et vous mettez l'isolant à l'extérieur, il faut le protéger. Et nous avons ces panneaux de béton poli et de pierre qui viennent habiller cela. Et pour une autre raison, je m'excuse, je te passe tout de suite la parole, c'est qu'au départ, le prix que nous nous sommes fixés et que nous avons tenu, c'est le double d'un HLM, c'est tout. Ce n'est que le double d'un HLM.
Il y a une autre raison aussi, c'est que on a déjà dit qu'on voudrait une identité pour ces ministères. Or, les bâtiments publics qu'on connaît le long de la Seine sont en pierre. Alors, on a voulu marquer certains éléments comme cette espèce de viaduc, ou faux viaduc, cette espèce de pile, tout ça, avec la pierre, parce que c'est les matériaux reconnaissables par les gens d'un bâtiment public. C'était une des raisons aussi, parce qu'on aurait pu faire ça en plaque acier aussi. Mais on ne l'a pas fait. Parce que pour nous, la représentation d'un bâtiment public de cette envergure, il était aussi inscrit dans une tradition des pierres.
Au fond, c'est un jeu sur l'échelle, c'est un jeu sur la citation, on peut y trouver des blocs piranésiens, on peut y trouver des tas d'autres choses. Mais il y a aussi deux autres raisons sur ce choix. C'est un bâtiment très très grand, et donc c'est un bâtiment qu'il fallait acclimater dans Paris. Et en plus, il fallait acclimater la haute fonction publique à l'idée de quitter le Louvre, César et tout. Donc, il faut pas se tromper, il y a aussi des raisons psychologiques. Si on avait eu un ministère des Finances de 2000 mètres carrés, nous l'aurions peut-être fait en sando, chewing-gum et tôle perforée. Mais on ne fait pas, si vous voulez, des expériences à rebrousse-poil, on ne fait pas des points d'interrogation, on ne fait pas des sauts de l'ange sur des enjeux de cette échelle, je crois. Et même tout à fait au début, et pourquoi pas c'était notre client, quand nous parlions avec le président de la République du choix des choses, on avait apporté un camion entier de pierres à l'Élysée, et cette pierre a été choisie parmi d'autres, et ce très léger camailleux entre la couleur du béton poli et la couleur de la pierre, pour le président de la République, c'était une référence à des choses plus anciennes qui existent en France, sur des camailleux de pierre employés, mais depuis Vézelay. Ça n'a rien à faire avec Vézelay. Dans l'ordre du citationnel, ce n'est, heureusement, vous le savez très bien, jamais direct. Quand c'est direct, c'est grossier.
Vous avez été même jusqu'à simuler, je crois, la construction du bâtiment, mais à une échelle importante, à mettre en concurrence, je crois, un certain nombre d'entreprises, pour justement voir jusqu'où pouvait aller la qualité.
Il y avait deux raisons à ça. Une, pour voir la qualité des entreprises, et la deuxième, pour montrer au ministère des Finances qu'est-ce qu'ils ont pensé faire. Parce que les deux éléments ont entré en jeu. Il y a de l'une qui ne découvre pas à la fin qu'est-ce qui s'est passé, et les entreprises, en même temps, qui ne découvrent pas le type de qualité qu'on attendait d'elles. Donc, on a monté à quelque chose comme 200 mètres carrés, les différents matériaux, etc.
À peu près l'échelle de cette pile où vous avez... C'était aussi grand que ça.
Et en plus, on n'a pas fait que ça dans la façade, on l'a fait aussi avec les bureaux.
On a construit 200 mètres carrés de bureaux deux fois pour arriver à la solution. Ouais. Totalement, pour de bon.
Tout le monde soit d'accord avec les produits, parce qu'aujourd'hui, paraît-il que ça s'appelle produit, hein, on puisse...
Projet,
le projet, c'est mieux pour nous, mais on l'appelle produit.
Toucher
au produit, comme on dit.
Alors, on va continuer la promenade, oui. Tout en parlant de mètres carrés.
Voilà le bruit. Le bruit du pouvoir.
Le bruit du pouvoir. Oui,
les puissantes limousines qui font des...
Vous parliez de mètres carrés tout de suite. On est dans un chiffre absolument considérable.
226 000.
226 000 mètres carrés.
Mais c'est rien. On a oublié une chose. C'est que quand la France, après la guerre, se reconstruisait, qu'elle faisait ses grands ensembles, 226 000 mètres carrés, c'est 2260 logements en équivalent de surface. Sarcelles en fait 10 000. C'est-à-dire que les concours d'Evry, les grands concours des villes nouvelles, portaient sur 5 à 7 000 logements. C'est-à-dire qu'on a oublié, dans le temps présent, l'échelle vraiment gigantesque dans laquelle les gens se sont lancés. Et à contrario, la réalisation de ce bâtiment, qui est réellement un fragment de ville, et pas seulement par la qualité de ses matériaux, mais par ses espaces, par son esprit de composition, montre à quel point une grande partie des architectes des grands ensembles ne savaient absolument pas à quelles échelles ils travaillaient, ni les masses qu'ils manipulaient, volumétriquement.
Vous parlez de fragments de ville, certains parlent de ville, tout simplement.
Oui, de ville. C'est une ville de... Actuellement, il y a plus de 5000 personnes.
Non, moi, je dirais un voisinage, une unité de voisinage.
Non,
mais
c'est un fragment.
Une ville, c'est beaucoup plus que ça, oui.
Enfin, c'est comme Fatihpur Sikri, qui est une ville limitée.
En tout cas, là, on est sous un énorme passage, une sorte de pont.
Oui, c'est l'informatique lourde. C'est-à-dire que la totalité de l'informatique lourde du ministère est dans ces trois choses suspendues dans le ciel pour deux raisons. Une, c'est que fonctionnellement, c'est central au projet et ça accompagne le développement du projet. Deux, pour des raisons de sécurité, essayez donc de brancher une bretelle ou une jartelle, comme on dit, là-dessous. Il faudrait être un pigeon voyageur.
Partout. Tout autour.
C'est un peu un fort.
C'est aussi un fort.
Oui. Normalement, vous savez, l'argent, on les met dans les coffres forts. Hein.
Les bureaux sont des bureaux, c'est-à-dire je crois que quand même on peut parler d'une certaine sécheresse, mais la mode des bureaux était une certaine sécheresse. Je crois que c'est aussi, on peut comparer à ce qu'a fait Buffy au aux collines à côté de l'Arche de la Défense. On peut comparer au bureau de la Défense même. Tout ça est assez sec, tout ça est assez aseptisé. Et je pense que ça correspond à une période actuelle de notre façon d'envisager les lieux de travail.
Mais quand même, vous dites sécheresse, vous dites bar. Alors, le terme bar a quand même des connotations aussi négatives. Et à un moment, vous parlez même de prison. Donc, je me souviens d'un article du Monde qui mettait en valeur les aspects positifs. Mais là, vous êtes carrément plus critique.
Non, parce qu'on peut... je veux dire, il y a une sécheresse qui est intéressante. Il y a une brutalité qui est intéressante. J'aime pas le mot intéressant. On raye le mot intéressant. Il y a une sécheresse qui est généreuse. Il y a une brutalité qui est... authentique. La notion de bar n'est pas a priori en soi condamnable. C'est une forme, dans laquelle un certain type d'architecture s'insère ou s'articule. Donc ces mots en soi, en eux-mêmes, ne sont pas péjoratifs. Ils sont, je crois qu'on peut dire que Chemtov et Huidobro les manient au maximum de ce qu'ils peuvent donner. De là à dire que c'est une architecture extrêmement accueillante, extrêmement aimable, non. Mais c'est l'architecture du ministère des Finances. C'est l'architecture d'un bâtiment qui doit être impressionnant. C'est l'architecture d'un bâtiment qui n'est pas accueillant. C'est l'architecture du coffre-fort de la France, qu'on le veuille ou non. Et là, il y a une recherche manifeste d'adaptation d'une fonction et à une image, d'une image à une fonction, et qui me semble assez aboutie. Alors au-delà, je crois que c'est un bâtiment qui a beaucoup de noblesse, si vous voulez des adjectifs plus positifs. Je crois que contrairement à ce que beaucoup de gens disent, la manière dont il va chercher l'eau, la manière dont il va toucher la Seine est acceptable. Non seulement est acceptable, mais si elle ne se répète pas, c'est ça le problème, c'est le problème du précédent, si elle ne se répète pas à tout bout de champ, si elle marque simplement un jalon dans l'histoire de Paris, dans le cours de la Seine, ça peut être extrêmement intéressant. Beaucoup de gens se plaignent de la manière dont ce bâtiment intervient sur le grand dégagement de la Seine, etc. Mais il faut voir ce qu'est le grand dégagement de la Seine à cet endroit-là. Jusqu'à présent, jusqu'à la construction de Bercy et jusqu'à ce qui n'était pas encore le projet de grande bibliothèque, on était quand même dans une zone assez désespérée et assez désespérante. Et qui manquait franchement de balises et de repères par rapport à ce qui pouvait suivre. Je crois que lorsque le bâtiment a été conçu, la manière dont il marquait la Seine comme une borne était en fait extrêmement intéressante. Et je serais beaucoup moins critique que beaucoup de gens qui, au fond, ont tendance à se focaliser sur cet élément-là pour, si je puis dire, pour éviter de s'engager sur le terrain plus complexe de la critique du reste du bâtiment.
Oui, parce qu'on a parlé en haut lieu, dit-on, de cette barre donc, qui va jusqu'à la Seine, comme d'un gigantesque péage d'autoroute.
Oui, je crois que, d'abord, je ne sais pas si en haut lieu a une pensée architecturale aussi profonde que la multiplication des grands travaux pourrait le laisser supposer. En haut lieu est assez victime d'un certain nombre de stéréotypes. En haut lieu s'est choisi des conseillers qui, pour certains, sont extrêmement bruyants. Pour d'autres, sont extrêmement victimes de la mode. Et en haut lieu, si je puis dire, associe à la fois quelques experts brillants qui sont toujours là ou qui ne le sont plus, je pense à Castro ou à Dupavillon, etc. Et puis, des relations mondaines qui ont des avis définitifs sur l'architecture, mais qui, lorsqu'on les voit dans des jurys de concours, se révèlent être des âmes beaucoup moins fortes sur le terrain de l'architecture qu'elles ne sont censées l'être dans leurs domaines qui sont les leurs. Me suis-je bien fait comprendre ?
Au tout début, Paul Chemetov, vous parliez de coups de force, et là, nous apercevons l'enjambé. Hein, au-dessus des routes, on va s'approcher. Et ce pied qui va tremper dans la Seine.
Comment voulez-vous qu'un Parisien puisse se satisfaire de ce bordel, de ce cloaque à boiture qu'on a mis le long de la Seine ? Et ce que veut dire cet enjambement, c'est qu'il y a un ordre dominant qui est la ville et son fleuve, et il y a un ordre secondaire que j'espère qu'il va disparaître, que l'on va enterrer, supprimer, dévier, peut-être même supprimer les voitures, qui est celui de ces égouts à voitures, et même pas dessiner de, comme les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées sont bourrés de voitures, mais au moins l'ordre urbain l'emporte sur l'ordre de la bagnole. Ici, l'ordre de la bagnole contorsionne l'ordre urbain, et nous avons voulu rétablir la raison de l'ordre urbain.
Il y a aujourd'hui, on pense beaucoup d'utiliser la Seine comme un moyen de transport. Si vous allez au Canavalet, vous verrez qu'il y a des gravures où tous les bâtiments publics de l'époque, que ce soit les Louvres, Notre-Dame, etc., tombaient dans l'eau.
Je reviens à ce que je vois, parce que je vois aussi des lignes très rectilignes, un travail que certains ont qualifié d'ascétique.
Oui, parce que, toujours pour les raisons que je vous disais, il n'y a aucune raison, et c'est une vieille tradition française sur la dépense somptuaire et tout, il faut exprimer la puissance de l'État, mais il ne faut pas non plus exprimer en ce lieu la futilité, le gâchis, la dépense somptuaire. Ce bâtiment n'a coûté, toutes dépenses confondues, y compris les aménagements et tout, nos honoraires, hélas, trop faibles, bien entendu, que 10 000 francs du mètre carré. Ce n'est rien du tout.
C'est moins cher, par exemple, que l'Institut du Monde Arabe ?
Deux à deux fois et demi moins cher. Au mètre carré, bien entendu.
Ah ouais.
Avoué.
Non.
On s'en demandera ça, Jean Nouvel, peut-être.
Non, 27 000 francs du mètre carré, l'Institut du Monde Arabe.
Mais à propos de coût, Paul Chemetov, est-ce que si vous aviez eu plus de moyens, parce que vous parlez de 10 000 francs du mètre carré, est-ce que vous auriez fait
non.
ce ministère
différemment ? Non, on a dit au départ, plus que le double d'un HLM, pour une raison de morale publique. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que les fonctionnaires d'État soient logés comme du temps de Courteline. C'est inadmissible, c'est dégueulasse et c'est démagogique. Mais il n'y a aucune raison non plus de faire de ça en doublé or ou de s'installer dans des techniques spatiales fort coûteuses pour faire des bureaux qu'on peut faire avec des moyens plus simples. Et ils sont, c'est le seul bâtiment réellement, comme on dit aujourd'hui, intelligent en France, totalement câblé, fibre optique et tout là. Mais ça suffit, on peut le faire pour ce prix. Pourquoi faire pour plus ?
De toute façon, c'est pas nous qui avons fixé les prix. Hein. Il faut bien se dire que les prix sont fixés par le ministère des Finances. Et à ce niveau-là, effectivement, ça représente deux fois les prix au mètre carré d'HLM. Et on trouve que, bon, on peut faire bien avec un prix comme ça.
Et on peut aussi faire bien des HLM et très bien pour 5 000 francs du mètre carré.
Aussi.
A contrario, l'un et l'autre.
Tout de suite, je parlais d'ascétisme. C'est vrai que d'aucuns qui étaient plus critiques. Parce que le terme ascétisme,
oui,
est une noblesse évidente.
Hein.
Certains disent que c'est un endroit lugubre, parfois tragique même, j'ai lu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Je ne crois pas que la rigueur ou la simplicité des éléments, ça veut dire que c'est pauvre, que ça veut dire qu'il n'est pas élégant, par exemple. Pourquoi on n'a pas ce terme-là ?
On l'emploie dans d'autres. Le milieu, comme on dit,
Mais ça dépend où. Vous savez, vous parlez milieu français. Mais est-ce que vous avez été voir les milieux américains, les milieux sud-américains, l'espagnol, l'italien, l'allemand, tout ça, à propos de ces bâtiments ? Vous aurez des surprises. Hein.
Non, mais ce qu'il y a dans cet ordre d'idées, qui a commencé à publier ce bâtiment ? La presse américaine, la presse anglaise, la presse italienne, Casabella, qui est la référence intellectuelle, les revues. Les Français s'y sont mis sur le tard quand ils ont vu que les étrangers l'acceptaient. Parce que les Français, ça leur restait en travers du nombril. Pour des tas de raisons, parce qu'on appuyait partout où ça faisait mal. Sur le problème de la signification, sur le problème de la permanence, sur le problème du contrôle des prix. Et tout cela faisait mal. On allait contre la futilité. Avançons parce qu'on est en train de jouer avec les portes. Mais là, le lugubre, Il est celui de Titus Carmel, éventuellement.
Oui, parce que là, on aperçoit une gigantesque peinture, donc, qui vient, qui est posée, donc, dans un hall, lui-même gigantesque.
Oui, oui.
Et un certain nombre d'œuvres d'art viennent rythmer, donc... Oui.
Et un très beau sol de Rougemont.
Disons, quatre poches ou quatre galeries liées par une, et chacune est qualifiée par une peinture. Là, on pourrait appeler, par exemple, Galerie Titus Carmel, Galerie Mata, Galerie Alechinsky, Galerie Reberol, comme ça, de façon à utiliser l'art comme une référence des situations.
D'une ville tout à l'heure, et nous nous disputions avec Borchab et Debro pour savoir si une ville, un fragment ville ou un grand quartier. Ce qu'il y a de très frappant dans ce bâtiment, et ça je le prends totalement positivement, ici vous êtes dedans et vous voyez la ville. Quand nous étions dans la cour tout à l'heure, dans le hall, au travers d'un bâtiment, nous avions ménagé une fenêtre pour voir du linge qui se fait aux fenêtres. C'est-à-dire que les cadrages de ce bâtiment intègrent toujours des morceaux. Il n'est pas la pierre noire de la Mecque semant le vide, la consternation, le lugubre, voire islamique, autour de lui. Non, je crois que quand on est dedans, et maintenant tous les habitants de ce grand bâtiment l'ont compris, ils sont dans ce rapport avec la ville. Et je crois que ça, c'est...
Rajouter un élément, je dirais qu'on a poussé aussi les bruits à entendre l'eau de la Seine qui n'est pas en face. Vous l'avez dit, ben...
Vous avez raison de parler de la Seine.
On va écouter l'eau.
Très bien.
Et ça, c'est aussi important.
Avec un bourdel, très beau, hein, le Pénélope.
Très grand aussi, une femme, donc avec le coude plié et une main qui passe sous le visage.
Le Pénélope.
Et des fontaines, une multitude de fontaines.
Oui, et pour deux raisons. D'abord, c'est la Seine. C'est à peu près le niveau de la Seine, enfin, métaphoriquement, bien entendu. Et c'est aussi l'ouverture de tous les restaurants sur cet espace. Ce qui fait que les restaurants sont à peu près plein sud, en contrebas de la circulation, et que le peu de bruit de circulation qui leur viendrait est couvert par le bruit de l'eau. Et qu'au fond... Il vaut mieux entendre un bruit naturel et quand même manger devant ça dans une cantine. Et c'est pas mal.
Pas désagréable.
C'est pas désagréable. C'est l'Inde. C'est Byzance. Et je crois que tout ça était ce qu'on oublie quand on parle lugubre. Laissez-moi rigoler. Les conditions de vie, les crèches, les garderies d'enfants, le souci apporté à la vie quotidienne simple des gens... Mais j'attends qu'un autre bâtiment plus fringant y apporte les mêmes atours.
Ce qu'on peut dire en tout état. C'est pas moi qui prends à mon compte
moi
le terme lugubre.
Hein.
Moi, ce que je dirais simplement, c'est que c'est un grand bâtiment classique.
Ah oui. Je crois que c'est le plus beau compliment que vous puissiez nous faire. Et quand vous regardez des textes de critiques contemporaines, notamment le célèbre texte d'Habermas sur la modernité, un projet inachevé, il commence par dire que le but le plus profond de l'architecture moderne, c'était de renouer avec le classicisme, d'établir les bases d'un nouveau classicisme. Au fond de cet accord, et puisqu'on a fêté l'an dernier la philosophie des Lumières, c'est un bâtiment des Lumières. Évidemment, c'est un bâtiment de la rationalité. Enfin, je reviendrai en hommage à Borja Ruiz de Bro sur une citation espagnole qui est de Goya, « Le sommeil de la raison engendre les monstres ». Eh bien, c'est un bâtiment qui n'est pas dans le sommeil de la raison. Il n'est pas dans la raison dévastatrice, il n'est pas dans la raison triomphante, nous ne sommes plus dans cet élan. Mais il n'est pas dans le sommeil de la raison. Et je me demande même comment on peut faire de l'architecture, comment on peut travailler en ville dans le sommeil de la raison.
Thank you.
Je reviens à cette notion de monumentalité, elle est très importante.
Hein. Oui, mais c'est... Sinon, c'était une cité administrative. C'était le regroupement des services préfectoraux dans l'heure, en plus grand. C'est cette austérité vaine, légèrement vaine, qui provoque cela. Imaginez qu'une flambée de colonnades diverses, d'arcatures, de frontons, bon, ça serait le carton-pâte. Et c'est cette espèce de tenue, comme un cheval qui est tenu, quand on dit d'un cheval qu'il est tenu. Et alors il fait de très belles figures, des figures de haute école. Eh bien, nous avons tenu cette composition, et c'est cela qui est ressenti comme classique, pour faire les figures de haute école de composition. Chaque partie est dans son rapport de sens, de proportion, d'espace, de traitement par rapport au tout. Le projet, c'est le tout.
Il y a une autre notion qu'il faut introduire ici. C'est une notion que personne n'aime. Écoutez, c'est l'ordre. Hein? Alors, l'ordre, évidemment, ça immédiatement colle à côté de l'ordre, la sévérité, les éléments lourds, la répression, etc.
Évidemment.
Eh bien, non, ça peut être la tranquillité de l'esprit, par exemple,
la
l'ordre.
Sérénité.
La sérénité.
Zen.
Ça peut être l'élégance, ça peut être plein de choses. Bon, nous, on est pour ça.
Moi, je pense à un autre grand architecte qui est Vittorio Gregotti qui dit, c'est pas à propos de ce bâtiment, mais il dit ce n'est pas, moi j'aurais tendance à dire, ce n'est pas le carnaval de l'esprit.
Ah non, 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 mais c'est pas le lieu, ce n'est pas le lieu. Demain, si on nous demande de refaire la locomotive ou les bains-douches, évidemment nous ne travaillerons pas de la même façon. Je crois qu'il faut avoir la politesse et la modestie de savoir quel bâtiment nous faisons, à quel moment du temps, dans quel lieu et pour qui. Il n'y a pas... Sans ça, on a juste une griffe. Et que l'on fasse la locomotive ou un ministère ou un HLM, on applique la même griffe
après,
pour d'abord
après.
La signature.
Au-delà de l'anecdote, Frédéric Delman, il y a quand même un problème. C'est d'une part, disons grosso modo, la profession reconnaît les qualités que vous-même vous soulignez à ce bâtiment, et en dehors de ce petit milieu de professionnels, la réaction est a priori négative. Vous posez des questions aux gens, les gens trouvent que ce mur, que ces barres sont violentes.
Oui, c'est l'héritage de... du modernisme, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il est tout à fait logique qu'une ou deux générations qui ont subi les conséquences du modernisme dans tout ce qu'il a eu de plus brutal, de plus stérile, de plus médiocre, se méfient de tout ce qui ressemble à cette idée de barre et à cette idée de brutalisme. Mais Chemtov, de manière un peu audacieuse, compare son bâtiment à un bâtiment classique comme les Invalides ou comme... je ne sais plus ce qu'il a cité. Mais regardez, si vous regardez de front les Invalides, c'est un bâtiment, c'est une barre considérable. Bon, il y a un dôme pour casser cette idée-là, et il y a des frisellis, il y a des choses qui ornent le toit, il y a des moulures et des choses comme ça pour agrémenter la façade, mais c'est en soi une barre. Comme le Louvre est une barre, comme les archives de Paris sont une barre, cette notion de barre, elle est complètement à réviser. C'est un bâtiment long et peu haut, c'est toujours une barre. Alors, tout dépend de la manière dont elle est traitée. Tout dépend des ouvertures qui s'y trouvent. Tout dépend de la manière dont elle est agencée par rapport à un site. Tout dépend de la manière dont elle est conçue pour y faire vivre bien ou mal les gens qui s'y trouvent. D'abord, ce n'est pas seulement une barre. Il faut quand même voir que, notamment du côté de la Seine, c'est un bâtiment qui est plein de surprises, de décrochements, d'éléments qui attirent le regard. Et la partie barre, finalement, est assez peu perceptible, contrairement à ce que disaient les gens. La partie barre, au fond, se perd dans l'intérieur de la terre. On voit la pointe de la barre qui arrive sur la scène, et sinon cette barre s'intériorise dans la ville. Et puis, elle, sinon, elle répond à cette espèce d'énorme colline verte qu'est le Palais Omnisports de Bercy, d'un côté. Et qu'est-ce qui pouvait mieux répondre à cette espèce de colline verte que ce long bâtiment avec cette douve qui est extrêmement bien conçu, je pense. Je crois que ça y répond tout à fait. Mais là, pour moi, ça n'est pas une barre. C'est un bâtiment effectivement très classique de ce côté-là. Et de l'autre côté, Shemtov et Huidobro ont préservé un ou deux pavillons anciens qui rendent difficile l'approche de cette notion de barre, contrairement à ce que les gens prétendent avoir vu. Alors là où il y a barre, c'est plutôt tout au fond. Le long des voies ferrées, dans ces parties plus complexes du bâtiment, là, il y a effectivement des barres. Mais là, tout d'un coup, c'est une autre logique, qui est celle, effectivement, de s'accrocher à la linéarité des quais, qui est d'essayer de retrouver une façade à la ville par rapport à ce qui était le nomad's land des voies ferrées de Paris-Gare de Lyon.
On vient de rentrer dans l'ascenseur qui est superbe. Alors, vous n'aimez pas qu'on mélange design et architecture ? Étage 7, nous dit-on, je crois. Mais là, le design de l'ascenseur est superbe.
Oui, mais je crois que le design s'applique aux ascenseurs et l'architecture s'applique aux bâtiments. Il est ridicule d'architecturer un ascenseur ou de designer un bâtiment. Prenez par exemple ces salles à manger. Non, c'est fermé. Mais on peut dire que le design de ces marqueteries, le dessin de ces marqueteries, de leurs poignées, est correctement fait. Mais chaque mode de projetation s'applique à une autre échelle. Il est certain que cet ascenseur peut changer de carrosserie, parce que c'est une carrosserie, plus vite que le bâtiment. Même s'il est superbe. Ces tablettes, ces consoles qui servent à poser les verres de cocktail et tout, bon, même si on a inventé un système très, très savant d'appui, cette tablette, un jour, pourra ne pas être en verre, être dans un autre matériau, peut-être inconnu à ce jour. Et la tâche changera. Mais c'est un ordre second.
Ici, on est dans un lieu élevé, la galerie des glaces, dites-vous. Alors effectivement, nous mirons sur notre gauche et puis nous découvrons la Seine et Paris.
Et vous comprenez la raison du déhanchement qui permet à l'ensemble ministériel d'avoir une vue depuis la Salpêtrière, le Panthéon, Notre-Dame et tout à fait dans le coin, le Beaubourg.
Il y a un autre terme qui me vient en bouche, là, c'est noblesse.
Oui, 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 nous ne récusons pas.
Ça, oui. Absolument. Vous savez, on a la prétention d'avoir construit un palais national. On les palais nationaux, quand on parle des palais, on l'attache toujours à la noblesse, des états comme ça. Bon, pourquoi pas, là ?
Si la République veut régler ses comptes avec l'Ancien Régime, elle doit reprendre pour elle la noblesse, pour abandonner l'aristocratie.
Oui.
Design et architecture, un débat parfois brûlant. Il est clair que Shebetov et Huidobro ont tenu à maîtriser l'ensemble de A à Z, à l'exception des bureaux
et des espaces réservés à deux ministres. Le ministère de la Culture a proposé à André Poutman et Isabelle Hébet d'en concevoir l'aménagement. André Poutman, architecte d'intérieur, nous donne d'abord son point de vue sur cet immeuble hors du commun.
Moi, d'abord, j'adore l'idée du drôle de quartier. Je trouve ça magnifique, je trouve que Paris s'est agrandi depuis. Et j'ai de la sympathie pour ce monument. Il est peut-être un peu grand, en effet, mais le traitement de ce monument dans les principes d'une ville, presque, et avec ses rues et ses places publiques, m'a mis très à l'aise. Enfin, j'ai vu que ça allait être un lieu puissant et qui allait bien fonctionner.
Presque classique, d'une certaine manière.
Tout à fait classique. Ça, c'est pas quelque chose qui me gêne, le classicisme. Je me sens bien dans le classicisme. J'ai eu des relations exceptionnelles, je veux dire, avec ces gens. Du premier jour, je suis sortie, vous savez, on ne sait pas pourquoi on s'entend avec les gens, mais je suis sortie euphorique de mon premier rendez-vous avec ces deux personnages. D'abord parce que j'ai eu l'extrême plaisir de me sentir complètement comprise dans le travail que j'avais préparé, qui n'avait pas une seconde cette espèce d'agacement que les architectes ont à l'égard des architectes d'intérieur. Probablement c'est parce qu'on a un mot en commun et qui nous méprise un peu, il faut bien le dire. Alors du coup, ils nous appellent décorateurs. Là, rien de tel.
Quelles ont été vos propositions ?
Les propositions, bien, je pense que comme on n'était pas du tout, on n'était pas informé de ce qu'allait être ce bâtiment, on a été plus que jamais, et on nous taquine avec ça, moderne classique. C'est-à-dire qu'on a conçu des espaces très 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 paisibles, où il y a toujours cette obsession d'une chose très prétentieuse, mais pourtant vitale, qui est l'idée de la sérénité, l'idée que l'œil ne va pas s'accrocher, et c'est souvent le cas dans l'architecture intérieure, à quantité de magnifiques petits détails, mais qui sont finalement accaparants, fatigants, obsessionnels. On a joué une autre carte qu'on aime jouer, c'est une grande qualité, et en cela on a été considérablement aidé par le Mobilier National, qui a réalisé ces meubles, car à peu près chaque meuble et certainement chaque détail a été fait pour la circonstance. Donc capacité, ce cadeau qu'on fait aux gens quand on leur dit « vous décidez tout ». Il n'y a pas une chose du commerce que vous devez utiliser. C'est très généreux. On a essayé de créer quand même une certaine douceur. Parce que dans le mot de moderniste, il y a déjà ou encore, malgré cette folie, cette passion pour le design et l'innovation, il y a quand même une idée d'agression. Et c'est sûr que les petits détails un peu gratuits, mais très discrets, font que ces lieux ont, ça serait peut-être lourd de le dire, mais un certain charme. Et on a beaucoup travaillé à ce charme. Et finalement, c'est presque toujours une recette que d'utiliser des matériaux qui sont nobles, simples, pas toujours traditionnels, mais c'est le cas dans les bureaux des ministres, et qui sont dans des jeux d'opposition, le clair et le foncé, le mat et le brillant, le rugueux, le doux. Il y a toujours un peu un jeu assez physique sur les matériaux qui est devenu un exercice qui est aussi un grand plaisir et qui déclenche comme ça un charme.
Donc un souci, vous parliez tout de suite de moderne classique, c'est bien cela. Oui. Ça veut dire quoi exactement, moderne classique ?
Vous savez, moi je lis des étiquettes qu'on me colle comme un chapeau sur la tête. Je sais que je suis perçue comme une moderniste à tout craint, mais qui aurait, pour des raisons que personne ne peut expliquer, le sens du comment le temps passe sur les lieux Et l'idée du classique, c'est que on travaille beaucoup sur l'idée que le temps ne doit pas peser sur ces lieux et que s'ils sont démodés au bout de 5 ans, ils sont tout à fait coupables et tout à fait ratés quelque part, parce qu'on peut pas faire un endroit aussi coûteux et complexe qui n'est vrai que pendant 5 ans. Donc il y a un énorme travail qui relève de l'intuition, parce qu'il n'y a pas de règles sur comment le temps va passer sur ces lieux. Ça, c'est très important.
On y revient, là, vous citiez un certain nombre d'intervenants artistiques sur ce lieu, c'est qu'effectivement, ils sont mêlés complètement au bâtiment.
Ah oui, mais ça c'est classique aussi. C'est-à-dire que la théorie du 1%, c'est-à-dire la superposition du cachet d'aspirine à des bâtiments qui certainement ne seraient pas artistiques puisqu'ils manqueraient de 1%, et les 99% seraient quoi? Du béton, peut-être du gros œuvre. Ici, vraiment, nous avons cet abord de la synthèse des arts, même si ce mot est pompeux, et d'un climat artistique commun. Nous nous sentons de plein pied avec Matta, Georges Noël, Thuriot et Bourdelle aussi, dans ce sens d'un certain temps historique.
Je fais une toute petite parenthèse, là. Je vous écoute tous les deux, et nous vous écoutons avec Bruno Sourcy, et ce qui me frappe, c'est cette espèce de passion, de jouissance que vous avez de parler de ce que vous venez de faire. Alors, c'est tout à fait compréhensible, mais en même temps, c'est notable.
Ah oui,
ça nous remonte la morale.
Non, on a...
Maintenant, parlons du reste. On a quand même consacré l'un et l'autre, depuis le concours qu'on a fait en 82 et notre nomination...
83. Janvier 83.
Non, en 17 décembre 82, nous avons appris que nous avions gagné ce concours. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, nous sommes en 90. Tout est fini maintenant. On est en train de vérifier les dernières petites vis. Mais en tout cas, sept ans de notre vie, 7 ans de malheur ou 7 ans de bonheur, on a résisté à tout. Vous imaginez les tempêtes, les convulsions, les enjeux de pouvoir, d'hommes. Le travail de sable des entreprises. Les entreprises françaises n'étaient pas habituées à faire dans de tels budgets des bâtiments d'une telle qualité. On a dû les contraindre. Il y en a eu d'excellentes. Il y en a qui ont traîné les pieds en disant « Mais vous êtes fous. Regardez ce plafond. Que les sprinklers tombent exactement dans les bandes de découpe de ces plafonds de bois blond. Mais... c'est complètement hors de la culture technique française. Mais qu'est-ce que vous avez à vous emmerder avec ça? Et je vous dirais que les ingénieurs des bureaux d'études ne comprenaient pas cette espèce de désir d'ordre géométrique. Regardez, quand vous voyez une prise de courant, elle ne tombe pas n'importe où. Mais, même si vous ne le voyez pas. Mais on va s'approcher d'une prise d'aspirateur. Regardez, cette prise d'aspirateur, bien que cachée, si vous la regardez attentivement, là, vous voyez, elle est centrée sur un joint de pierre. Vous imaginez la quantité de plans, mais l'espèce de folie qu'il y a là-dedans. Cette trappe, elle est exactement centrée aussi. Mais
cette espèce de volonté de coordonner toutes les lignes, coordonner cette espèce de calpinage, et calpiner les bâtiments, c'était quelque chose d'effrayant. Mais c'est ça qui donne l'ordre, c'est ça qui donne ce qu'on appelle la sévérité, c'est ça qui donne tout ça. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. Si une ligne arrive n'importe où, quelle importance? Pour nous, non. La diagonale arrive pile au...
C'est très important parce que c'est vrai que, disons, la personne non attentive n'y prête pas attention, mais inconsciemment, tous ces chevauchements de lignes maladroites crée le sentiment d'un léger flou. Et inconsciemment, cette convergence des directions, des axes, des calpinages, crée l'impression d'une maîtrise, d'une sérénité, et de la tenue, au sens de la haute école équestre.
En un mot, qu'est-ce que le calpinage?
Le calpinage.
C'est ça, pour donner les éléments.
C'est le dessin des pierres dans un projet.
Vous étiez combien? Parce que vous étiez deux, ça on l'a bien compris. Vous êtes toujours deux à avoir porté ce projet. Mais vous étiez combien à le réaliser?
C'était variable. À un moment, au moment de folie, quand on a fait le concours, enfin l'esquisse du concours, on était trois. Voilà. Mais ça, c'était l'idée, avec un grand I. Oui, ces trois personnes ont dû se transformer en 100 personnes très rapidement, pendant architecte et ingénieur, pendant la période incroyablement brève d'un an et demi, pendant lequel on est passé de l'esquisse à la signature des marchés avec les entreprises. Le marché, enfin le document que l'on remettait à l'appréciation des entreprises pour qu'elles donnent leur prix, pesait 1,2 tonne et faisait 7 mètres cubes. Nous avons en moyenne travaillé 300 heures par mois pendant cette année et demie qui était un véritable cauchemar. Voyez nos cheveux. Et vous comprenez, nous étions des jeunes gens, bruns comme vous. Et ça a été un cauchemar de tenir ça. Et par la suite, nous sommes passés à 50 personnes. Et nous avons fini le chantier avec 25 architectes pour contrôler les travaux. Mais parallèlement, vous aviez, d'une façon très curieuse, la maîtrise d'œuvre dans son ensemble. Les quantités se déplaçaient, a été toujours d'une centaine de personnes sur le chantier, et réellement sur le chantier. Ce projet a été fait sur le chantier, dans des baraquements qui étaient là, droit devant nous.
On va continuer la visite, mais il y a une chose qui m'a frappé dans ce que vous venez de dire tout à l'heure, Paul Chemetov. Vous avez dit l'idée, à partir du moment où l'idée... En fait, si je comprends bien, en architecture, il faut une idée, une ou deux. Je crois que c'est Pei qui dit ça quelque part.
Oui. Pei dit même plus méchamment, une idée par projet, à la rigueur deux. Mais ouais. Quand il dit idée, ouais. C'est comme quand Faucillon parle de la forme avec un grand F. C'est le thème central, formel. Évidemment, après, il y a 50 000 plans sur ce projet. Mais l'idée est très bizarrement que nous avons eue séparément. Parce que nous voulions savoir quel était notre abord du bâtiment. Nous sommes allés chacun. Nous n'avions pas encore reçu le programme. Mais sur ce lieu, quel bâtiment faire ? Borja Huidobro est allé de son côté, je suis allé de mon côté. Et on a fait tous les deux cette ligne qui court jusqu'à la Seine. Le tout premier croquis, tout bête, dans le creux de votre main. Bon, après, c'était un travail de développement. Mais cette position a été évidente pour nous dès le départ. Ce qui a créé aussi les conditions d'un travail commun. Parce que si l'un pense qu'il faut faire une tour et l'autre un bâtiment allongé ou une nappe, c'est très difficile de travailler ensemble.
Je dirais que, bon, une idée d'accord, mais c'est une idée extrêmement complexe. Oui. Heureusement.
Est-ce qu'il vous arrive de rêver et de penser que ces bâtiments, celui-ci en particulier, le ministère des Finances, va rester comme ça pendant des siècles ?
C'est la première chose à laquelle je pense lorsque je vois un bâtiment. Mon premier critère de jugement lorsque je vois un bâtiment, c'est est-ce que le bâtiment qui vient d'être construit ou qui va être construit lorsqu'il s'agit de projet est au moins à la hauteur de ce qu'il y avait avant ?
Frédéric Edelman.
C'est un premier critère. Et il est évident que Bercy est intervenu dans un morceau de ville extrêmement pathétique, je dirais même pathologique, compte tenu de ce qu'on y voit encore, et que ne serait-ce que pour ça, il a redonné corps, il a donné des épaules, je dirais, des épaules effectivement qui s'avancent sérieusement sur la scène et de manière assez volontaire, mais il a redonné des épaules à quelque chose qui était dans ce pluriel de cubes informes qui était quelque chose de mou. C'était de la ville molle, de la ville infecte. Et l'architecture de Chemetov, que par ailleurs, effectivement, on peut trouver dur, je n'aime pas. De très loin, je n'aime pas tout ce que fait Chemetov et ce que font Chemetov et Huidobro, mais là, ça a une cohérence, ça a une noblesse, ça a une force, ça a une logique, c'est bien meilleur que l'Opéra Bastille, c'est bien meilleur que des tas de bâtiments qui sont singulièrement plus violents par rapport à la ville, sans lui donner du sens. Ça apporte du sens à la ville. Il faut aller de l'autre côté de la Seine et voir ce bâtiment de face, ça a formidablement de gueule. ça a un véritable dessin. Ça, et c'est loin d'être une barre stérile. C'est une barre pleine de mouvements, c'est une barre véritablement pleine d'intelligence.
Borja Huidobro et Paul Chemetov à propos de la modernité.
On a l'impression aujourd'hui que montrer les tuyaux en façade, montrer les tuyaux partout, montrer les tuyaux à tout bout de champ, c'est moderne. Mais nous pensons que ce n'est pas moderne.
On pense qu'il y a une perte de sens même. C'est vrai que c'est très commode, quand vous ne savez pas que faire, de faire une dissection et d'enlever la peau et de dire à l'intérieur, il y a des intestins, des reins, des foies, et qu'au fond, le projet, c'est ses intestins, ses reins et ses foies. C'est un peu plus compliqué que ça, quand même.
Ce qui a fait beaucoup de mal à l'architecture, c'est l'engin qui atterrit sur la Lune. Parce qu'il fallait travailler à l'économie, donc parce que vous savez, c'est un problème de pousser des fusées, etc. Donc il fallait à l'économie. Donc tout ce que c'est la technique, on la voyait. Et on croyait que ça, c'était moderne, parce qu'on était arrivé à la Lune. Et aujourd'hui, on croit que pied sur Terre, où la place en Terre n'existe pas, il faut bien se le dire, qu'un bâtiment ne flotte pas, pour l'instant, hein, ne flotte pas. On pense qu'on peut faire des bâtiments comme ça. Et c'est ça qu'on croit que c'est la modernité. Or, je pense que la modernité, c'est bien plus que tout ça.
Paul Chemetov.
Oui, toujours pour finir sur un jeu de mots. Une parole d'Ernst Bloch. L'origine est le but. Et c'est ça la conception que j'ai de la modernité. C'est que la modernité n'est qu'un temps de notre histoire. C'est que le temps présent de notre histoire, mais de notre histoire humaine. C'est-à-dire, si on voulait faire un slogan, de Pestum à aujourd'hui et au-delà. Mais pourquoi, au nom d'un atterrissage, d'un alunissage réussi, je vais oublier tout ça? Je vais oublier toute la ville qui est autour de moi, qui est là, présente. J'ai horreur des bâtiments haussmanniens. J'ai horreur des bâtiments haussmanniens. Mais je sais qu'ils pèsent sur moi et sur la conscience de tous.
D'une certaine manière, avec ce bâtiment, et d'une façon que je trouve vraiment heureuse, vous faites une critique d'une certaine architecture.
Ah oui, bien entendu. Mais bien entendu. Mais je crois qu'il vaut mieux la faire dans le bâtiment que dans des déclarations fracassantes à la presse. Et toujours nos bâtiments ont été pas polémiques. Parce que,
si on peut le dire.
Mais non, ils ne sont pas polémiques au sens. Par ailleurs, nous nous amusons quelquefois à écrire des textes drôles. Mais ils sont polémiques, c'est-à-dire qu'ils sont des éléments des temps du débat. Et plutôt que d'accuser, comme certains de confrères le font, que nous soyons des faussaires, que nous ayons triché sur l'échelle, nous préférons répondre par notre bâtiment et établir un point de comparaison entre ce qui nous paraît essentiel et ce qui leur paraît essentiel. Les arts déco en France, ça continue à faire des ravages. Et au travers des arts déco de n'importe quel style, art déco 25 ou art déco 90, vous n'abordez pas les rivages de l'architecture. L'architecture, elle se règle aussi dans le construire. Et ça, c'est le grand problème des architectes français, de la masse des 25 000, c'est qu'ils ne sont pas dans le construire, ils sont dans la décoration du gros œuvre.
Mais pourquoi ils ne sont pas dans le construire? Parce qu'on ne leur permet pas? Parce que le système
des concours est tel que... Non, leur éducation non technique, le système des concours qui valorise des images, et l'espèce de système technostructurel français avec les entreprises générales, les bureaux d'études, ramène les architectes, pour l'essentiel, à être des dessinateurs de façades. Et ceux qui, dans des genres très différents, Nouvel est un excellent technicien... etc. C'est pas parce qu'on travaille en béton, en acier ou en verre. Il y a une minorité d'architectes français qui ont un rapport égal
de plein pied avec la technique et qui est un élément de leur réponse architecturale dans lequel ils sont parfaitement à l'aise et pas comme d'un élément qui va venir comme des échafaudages, des prothèses qui vont venir tenir la baudruche que vous dessinez et qui est limitée par ses contours et on ne sait pas comment c'est dedans.
Nuit magnétique, architecture. Ce soir, le ministère des Finances, de la monumentalité. Claude Hudelot, Pierre Mine, Bruno Sourcy, Philippe Sourdon. Avec Paul Chemetov et Borja Huidobro, architecte, André Poutman, architecte d'intérieur, Frédéric Edelman, journaliste au Monde. Nuit magnétique, bonsoir.
C'était le ministère des Finances, une visite d'Ambercy par Claude Hudelot et Bruno Sourcy, diffusée pour la première fois dans les Nuits magnétiques de France Culture le 7 juin 1990.